Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Voici les titres. D'abord, la MONUSCO déterminée à en finir avec la rébellion ougandaise des ADF et ses suppôts locaux. Le général Abdallah Wafi l'a déclaré haut et fort mercredi dernier à Kinshasa. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Et puis dans le procès Jean-Pierre Bemba, les juges de la CPI ont pris l'affaire en délibéré après 2 jours d'audition des conclusions finales de l'accusation et de la défense. Le verdict est attendu dans plusieurs mois, les détails dans quelques instants. Enfin, plus de 68 000 réfugiés centrafricains vivent en RDC dans la province de l'Équateur et en province orientale. Un peu plus de 15 000 d'entre eux sont pris en charge par le HCR à Molé, à 37 km de Zongo, dans la province de l'Équateur. Notre reporter était la semaine dernière à Zongo et a rencontré le chef de bureau du HCR local, Madame Ursula Nathalie Dietam. C'est elle l'invitée de ce dimanche et ce sera tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. La situation sécuritaire à Beni, au Nord Kivu, préoccupe encore l'opinion nationale avec la résurgence ces dernières semaines de l'insécurité attribuée aux rebelles ougandais des ADF. Au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé des opérations dans l'est du pays, a encore une fois fait le point sur cette question. Selon le général Abdallah Wafi, les populations et les forces vives de Beni devraient faire attention à ne pas tomber dans le piège de campagnes de manipulation et d'intoxication visiblement orchestrées contre la MONUSCO. Et de toute manière, la MONUSCO ne se laissera pas distraire de son objectif, celui d'en finir avec les ADF et leurs suppôts locaux. Les propos du général Wafi recueillis par Honoré Missengakalala.
Autant nous comprenons l'exaspération des populations face à ces actes que tout le monde condamne naturellement, mais encore une fois, je veux dire, cela ne saurait nous distraire de l'objectif qui est d'en finir avec l'ADF. Et l'ADF et ses suppôts locaux. Pendant mon séjour à Beni, nous avons discuté avec l'organisation de jeunesse et de la société civile, comme je l'ai dit, mais aussi avec les autorités nationales, provinciales et locales. Une des questions qui est revenue, c'est que pourquoi la brigade d'intervention de la MONUSCO, qui a combattu aux côtés des FARDC contre les M23, ne le fait pas contre les ADF? La brigade d'intervention, elle est à Beni, elle est à Eringeti, elle est à Kamango, elle est à Semiliki. Vous avez vu l'incident qui s'est produit hier, mais c'était contre la brigade d'intervention. Le bataillon tanzanien qui quittait Mavivi pour aller à Eringeti, ils ont été attaqués. Ils ont dû tirer en l'air pour se dégager, pour continuer leur soutien. Alors, comment on peut vouloir quelque chose de son contraire? On reproche à la brigade d'intervention de ne pas être là, et quand elle vient, on bloque son passage. On les empêche d'aller au front, on les empêche d'aller au combat. C'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Qui a intérêt à jeter des cailloux? Nous avons été, même la nuit, dans des patrouilles à pied. Quand les militaires tanzaniens, malheureux, descendent pour entrer dans la forêt, pour essayer de traquer ceux qui viennent égorger les femmes et les enfants, on leur jette des cailloux, on les empêche d'opérer. Mais posez-vous la question, à qui profite cela? Dès demain, je serai à Beni, je vais rencontrer là aussi la société civile, les organisations de jeunesse, les autorités locales, y compris les élus du territoire de Beni, pour que nous puissions avoir une meilleure interaction avec les populations, pour expliquer exactement ce que nous faisons avec les FARDC, pour que nous puissions avoir le soutien de la population et pouvoir mettre fin à ceux-là qui, au sein de la population, créent cette confusion, cette manipulation.
L'autre actualité cette semaine, c'est l'affaire Jean-Pierre Bemba. Les juges de la Cour pénale internationale se sont retirés pour délibérer dans cette affaire qui oppose le sénateur congolais au procureur de la CPI. Au terme de 2 jours d'audience au cours desquelles la défense et l'accusation ont présenté leurs conclusions finales, l'ex-vice-président est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003. Les détails avec Stéphanie Mopa depuis La Haye aux Pays-Bas.
D'entrée de jeu, le procureur a dénoncé la barbarie des soldats de Jean-Pierre Bemba, des hommes qui, pour l'accusation, étaient sous le contrôle effectif de l'accusé. Appelé en renfort par l'ex-président centrafricain d'alors, Ange-Félix Patassé, les soldats de Bemba auraient tué, violé et pillé, selon l'accusation, et le sénateur congolais savait qu'il commettait des crimes horribles, défend le procureur, assurant qu'il aurait pu les empêcher. Avec conviction, la défense a réfuté les accusations du procureur, assurant que les troupes de Bemba avaient été placées sous le contrôle des forces armées centrafricaines. Il n'en était dès lors pas le chef. Pour la défense, qui a dénoncé un procès secret, rappelant que les témoins ont comparu sous pseudonyme tout au long du procès, les hommes du général François Bozizé ont commis les tueries quand les soldats du MLC étaient accueillis en libérateur. La défense a aussi rejeté l'idée que Bemba ait pu, assis dans son salon à Gbadolité, donner des ordres à ses troupes sur place. Pour conclure, les avocats ont demandé l'acquittement en rappelant que de nombreuses troupes étaient en Centrafrique et qu'aucune autre n'a été poursuivie par la cour. Les juges se sont retirés pour délibérer. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs mois. À La Haye, Stéphanie Mopa, Hirondelle News pour Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Justice encore dans ce magazine. Le Centre international pour la justice transitionnelle a organisé mardi dernier à Kinshasa une conférence de haut niveau en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et le PNUD. Objectif, discuter des moyens de renforcer le système judiciaire congolais et sa capacité à enquêter et poursuivre des crimes graves relevant du statut de Rome. Jean-Pierre Elali Koko a suivi ces travaux. Il s'entretient avec David Tolbert. Il est président du Centre international pour la justice transitionnelle. Les propos de M. Tolbert sont traduits par un interprète. Suivez.
M. David Tolbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, oui, ça va bien. Et vous êtes le président du Centre international de la justice transitionnelle.
Oui.
Et vous êtes maître des conférences, de cette conférence qui se tient ici. Oui. Est-ce que nous pouvons connaître l'objet des rencontres?
Yes, by the way, ICTJ is an
attorney. You understand my question?
Yes, I understand your question. The purpose of the conference is to really advance for the investigation and impunity.
Dans ce pays, en prenant de mesures nécessaires pour combattre l'impunité.
Alors, quelles sont les attentes de cette conférence? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces assises à la fin?
Les auteurs de ces crimes.
So we will look both at the technical, the capacity, and the political blockages which are preventing the proper investigation and prosecution of these crimes.
Donc nous allons voir sur les aspects qui bloquent en fait que des investigations, des enquêtes proprement dites sur le plan technique, sur le plan de procédures judiciaires, de poursuites, que cela soit puisse être analysé de bonne manière. Voir comment on peut établir une chambre d'accusation avec les techniques appropriées pour mener à bon port ces enquêtes et poursuivre ces cas de crime.
Les grands reproches qu'on fait à la justice internationale et notamment à la CPI, c'est d'être une justice à deux vitesses, où on a tout simplement des inculpés des pays comme les pays africains notamment et pas des pays occidentaux. Quelle est votre position là-dessus que répondez-vous?
I would say under international law, the country, and like a number of countries in Africa and across the world, have ratified the Rome Statute. They have taken those obligations on after examining them and studying them. So this is a voluntary...
Lorsqu'un pays a ratifié, signé un traité, donc ce pays doit se conformer aux exigences de la loi internationale. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour apporter notre soutien, notre support, de voir ce que ce genre de cas puisse être traité selon la loi internationale. Personnellement, j'ai travaillé en qualité de procureur adjoint pour les différentes positions que j'ai occupées pour le tribunal, par exemple pour la Yougoslavie, et j'ai travaillé aussi pour le tribunal international pour le Liban, ainsi de suite. Donc je suis là pour apporter mon expertise, mon savoir-faire, afin que les choses puissent se passer dans ce pays convenablement.
Monsieur David Tolbert, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. Okay.
Nous ouvrons ces nouvelles par cette feuille de route contre le wilt bactérien du bananier mis sur pied à Kisangani en province orientale. Les auteurs de ce document sont des experts, parmi lesquels des chercheurs de l'IFA Yangambi et de l'université de Kisangani, des inspecteurs provinciaux en vulgarisation et des producteurs de bananes. À l'issue d'un atelier de sensibilisation organisé la semaine dernière par la FAO, le wilt bactérien se manifeste entre autres par le mûrissement et la pourriture prématurée des régimes de bananes. La maladie attaque indistinctement toutes les variétés de bananes cultivées et réduit sensiblement leur potentiel de production. Passons au sud Kivu. Plus de 500 familles du territoire de Kalehe ont bénéficié le 8 novembre dernier de rations alimentaires d'un mois et 2000 enfants ont bénéficié de biscuits énergétiques. Ces populations étaient victimes des inondations provoquées par les pluies torrentielles qui s'étaient abattues dans ce territoire il y a plus de deux semaines, occasionnant la mort de 5 personnes, d'importants dégâts matériels et de nombreux disparus. Et enfin, cet avertissement du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, attire l'attention du public sur des manœuvres frauduleuses et autres subterfuges qu'utiliseraient des personnes mal intentionnées pour escroquer d'éventuels demandeurs d'emploi. Ces escrocs proposeraient des emplois, des facilités de recrutement ou de stage, ainsi que des marchés attribués prétendument au PNUD ou à ses fonctionnaires. Le PNUD recommande donc la vigilance à la population.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Que fait le HCR pour les réfugiés centrafricains de la province de l'Équateur? Nous l'avons dit dans le sommaire, l'envoyé spécial du magazine des Nations Unies était à Zongo et à Libengue du 6 au 10 novembre pour se rendre compte des conditions de vie des réfugiés centrafricains vivant dans le nord-ouest de la province de l'Équateur. Honoré Misenga Kalala y a rencontré Madame Ursula Nathalie Dietam, chef de bureau du HCR Zongo. Suivez leur entretien.
Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
En votre qualité de chef de bureau local ASR Zongo, combien de réfugiés centrafricains comptez-vous actuellement à Zongo et dans la périphérie de Zongo?
Ici, à Zongo et plus particulièrement au niveau du camp de Molé, où nous avons nos réfugiés centrafricains, la population réfugiée est à l'heure actuelle à un peu plus de 15 000 personnes.
Un peu plus de 15 000, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants?
Alors, nous avons un peu plus de 15 000 personnes au camp de Molé, avec à peu près 4 000 hommes, 4 000 femmes et un peu plus de 8 000 enfants.
Alors madame, quelles sont les besoins les plus importants de tous ces réfugiés?
Je pense que ces réfugiés, quand ils arrivent ici, ils ont besoin de toute l'assistance possible, qu'elle soit juridique, matérielle, physique. Donc être déjà bien accueillis, mis dans un logement ou dans une structure d'accueil confortable, convenable, avoir un accès à la santé, à l'eau, à l'éducation, à des activités génératrices de revenus qui leur permettent de se réinsérer aussi dans une activité économique. Je pense qu'ils ont plusieurs besoins, beaucoup de besoins, et nous essayons dans la mesure de nos moyens d'y répondre.
Oui, pour répondre à ces besoins-là, à ces nombreux besoins, qu'est-ce que vous faites? Que fait concrètement le HCR?
Le HCR mène des activités multisectorielles, que ce soit en mise en œuvre directe ou par ses partenaires d'exécution, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la construction, tout ce qui est abri, structure au niveau du camp, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau et assainissement, avec les fourrages, avec les latrines familiales. C'est un ensemble de mesures qui sont mises en œuvre.
Dans le domaine de la santé, qu'est-ce qui est fait?
Je pense que vous l'avez vu par vous-même. Il y a un poste de santé au niveau du camp avec des médecins qui officient, qui dispensent des soins aux malades, réfugiés, mais pas seulement, même à la population locale qui est autour du camp. Il y a des femmes qui accouchent. Il y a des personnes qui subissent des petites chirurgies, il y a des vaccinations qui sont faites pour les enfants. tout ce que la santé est censée apporter à tout être humain, nous essayons à notre niveau à Cher de les mettre à la disposition des réfugiés.
Par rapport à ça, on a vu aussi un centre de santé qui est en construction.
Exactement. Je pense que vous avez vu le poste de santé qui est pour l'instant en matériaux non durables, donc en bâche et en bois. Ça, c'était dans le cadre de l'urgence, quand l'afflux venait de commencer. Maintenant, nous sommes en train de construire un centre de santé en dur qui sera également accessible aussi bien aux réfugiés qu'à la communauté hôte.
Mais par rapport à l'éducation, qu'est-ce qui existe déjà ou qu'est-ce qui est en cours de réalisation ?
Par rapport à l'éducation, vous avez vu les enfants qui vont à l'école. Nous avons deux écoles au niveau du camp qui fonctionnent très bien avec un peu plus de 1000 élèves dans ces deux écoles. L'enseignement qui est dispensé est un enseignement qui a été validé par les inspecteurs de l'enseignement venant de la République centrafricaine. Donc c'est le curriculum centrafricain qui est appliqué. Il y a eu une formation de ces enseignants avant la rentrée pour justement renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent mieux encadrer ces enfants.
Le secteur de l'assainissement et d'eau, qu'est-ce qui est fait par l'UACR?
Au niveau de tout ce qui est eau et assainissement, nous avons fait des fourrages. Nous en avons 7 pour le moment, mais c'est 16 qui vont être faits avant la fin de l'année. Nous avons des points d'eau qui permettent de distribuer de l'eau dans tout le camp pour justement faciliter l'accès à l'eau à ces réfugiés-là. Mais nous avons également fait des fourrages hors du camp, dans le village de Molé où se trouve le camp, afin que la communauté hôte, les autochtones, puissent également bénéficier de ces structures-là qui ne sont pas faciles à installer ici.
Quelles sont les grandes difficultés auxquelles votre agence est confrontée dans la gestion des réfugiés centrafricains?
Bon, les défis ne sont pas très nombreux, mais nous essayons, dans la mesure du possible, de les surmonter. Je pense que le plus grand défi est un défi au niveau de la logistique, au niveau des routes, pour pouvoir acheminer toute l'aide que le HCR a prévu d'apporter à ses bénéficiaires. Comme vous le savez, la province de l'Équateur est vaste, mais aussi avec des routes en mauvais état, mais que nous espérons aussi voir s'améliorer dans un proche avenir, ce qui pourra aussi nous faciliter dans les interventions que nous menons actuellement.
Madame, vous pouvez juger le comportement des populations congolaises vis-à-vis des réfugiés centrafricains?
La communauté locale est très accueillante. Je dirais même qu'il y a une cohabitation pacifique entre les réfugiés et les autochtones. Tout se passe très bien. Nous sommes d'ailleurs très contents, très satisfaits de voir que c'est une communauté qui a facilement accueilli ce peuple déjà fragilisé par toutes les épreuves endurées. Donc vraiment, nous nous réjouissons et nous souhaitons que ça se perdure dans l'avenir.
Vous pensez, madame, qu'il y a accalmie à la frontière? Est-ce que vous recevez des nouveaux réfugiés ou alors la situation s'est calmée déjà?
Alors, je ne saurais pas parler de la RCA. Tout ce que je peux vous dire en étant ici à partir de Zongo, c'est que depuis quelques semaines, on n'a plus d'afflux. Donc, ce qui est un bon signe pour nous, ce qui se passe en RCA, je ne saurais pas m'engager là-dessus et vous dire il se passe ça ou il se passe ça, mais par rapport aux éléments que nous voyons, on dirait qu'il y a une accalmie et nous espérons que ça ira dans le bon sens.
Est-ce qu'il y a eu déjà une tripartite entre les deux pays, la RCA, le Congo et le SR, par rapport au dossier réfugiés centrafricains?
Pas pour le moment.
Merci beaucoup, madame.
Une fois n'est pas coutume, la nouvelle de province de cette semaine part de la ville province de Kinshasa. Il y a 2 semaines, les staffs du système onusien et leurs dépendants ont été conviés à une campagne de sensibilisation à la lutte contre le VIH-Sida et le virus Ebola. Le cadre était le siège du bataillon ghanéen de la MONUSCO. Honoré Missenga Kalala était sur place. Il a tendu son micro aux représentants de quelques agences onusiennes et à certains de leurs dépendants qui expliquent l'intérêt de cette campagne de sensibilisation.
C'est l'Organisation mondiale de la santé. Il y a plusieurs types de maladies auxquelles nous sommes en train de sensibiliser les gens pour pouvoir éviter ces types de maladies, pour diminuer la mortalité, la morbidité.
La journée UNTIER, en fait, c'est une journée qui ne concerne pas que l'ONUSIDA, en fait, ça concerne tout le système des Nations Unies. Et le but ici, c'est de sensibiliser les staffs des systèmes des Nations Unies, ainsi que les dépendants, sur les questions donc de prévention par rapport au VIH, la connaissance, les moyens de se prévenir, et aussi l'offre de soins. Mais cette session, particulièrement, a été marquée par l'actualité. Vous savez que l'Afrique est en train de subir donc cette nouvelle épidémie de Ebola. La RDC a été touchée, mais heureusement pour nous, on a contrôlé cette épidémie. Mais on a profité de cette session pour également faire passer des messages donc d'éducation et de sensibilisation sur ce qu'est la maladie Ebola et ce qu'elle n'est pas, et également des messages de prévention en ce qui concerne notamment les techniques de lavage de mains au niveau des staffs, mais aussi des dépendants des staffs.
Oui, on est dans le stand de l'INSEP ici. Bon, ici, nous avons mis un stand relatif au lavage des mains. Nous essayons de montrer aux gens l'importance donc de se laver les mains.
Ça s'est bien passé, vraiment. Surtout, nous avons aimé quand ils ont parlé de la fièvre hémorragique d'Ebola. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas ou qu'on comprenait mal. Oui, on doit se protéger, mais on doit emmener à l'hôpital et ne pas trop avoir peur. À la jeunesse congolaise, à tous ceux qui n'ont pas été ici, qui n'ont pas assisté, qu'ils sachent que la maladie existe, tout le monde peut l'attraper, mais tout le monde peut aussi l'éviter. Ce sont des petits gestes d'hygiène qui peuvent nous aider. Nous devons laver les mains chaque fois que nous avons touché n'importe quoi, avec du savon précisément. Mais on peut toutefois utiliser les désinfectants, mais on doit s'assurer que c'est un désinfectant vraiment efficace. Parce qu'il y a certains qui ne servent à rien, qui sont juste désinfectants, mais qui ne sont pas efficaces. Mais vraiment laver les mains et toujours laver les mains.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Innovateur de AP, où en sommes-nous avec des drones de surveillance de frontières rwando-ougando-congolaises?
Cette question est venue de Goma et c'est Charles Bambara, porte-parole intérimaire de la MONUSCO, qui répond.
Ce qu'on peut dire, c'est que les drones sont en activité. Vous savez qu'il y a quelques semaines, un des drones avait été endommagé. Il était en vol pendant une période de forte pluie, avec beaucoup de vent d'ailleurs. L'ensemble des drones qui existaient ont déjà repris leurs activités. Donc les drones sont effectivement en activité. Comme d'habitude, les 5 drones de la MONUSCO sont en activité. Voilà ce qu'on peut dire dessus.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Capi. Je m'appelle Claude Kalinga Ebal. Je suis fonctionnaire des Nations Unies au Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies. Et je suis chargé de la communication dans cette agence depuis bientôt 7 ans. Je suis licencié en pédagogie appliquée option anglais. Et j'ai obtenu mon diplôme en 1993. Et jusqu'aujourd'hui, je passe le clair de mon temps à travailler dans cette langue que j'utilise environ 90%. J'ai fait mes écoles primaires et secondaires dans la province du Bandundu et je suis venu à Kinshasa pour l'université où j'ai terminé ma licence à l'Institut Pédagogique National, aujourd'hui Université Pédagogique Nationale. Après avoir décroché mon diplôme de licence, j'ai été assistant dans un institut supérieur pédagogique dans la province du Bas-Congo et j'ai été plusieurs fois conseiller pédagogique. J'ai été aussi enseignant à l'école secondaire, j'ai été préfet des études et après cela, j'ai commencé ma carrière professionnelle, disons de manière administrative à l'ambassade américaine à Kinshasa. De là, je commencerai mes aventures dans l'humanitaire en commençant par la Croix-Rouge. C'est là que je vais évoluer dans les domaines de l'humanitaire pendant environ 2 ans et comme chargé des communications et des rapports. Et de là, je partirai à OCHA, qui est le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Je passerai quelques années là et de là, je vais aller au programme alimentaire mondial et depuis bientôt 7 ans, je suis dans cette agence. Que mes tâches quotidiennes consistent, n'est-ce pas, à prendre des contacts avec des médias, à écrire des articles de presse, à publier sur le site du PAM au niveau international. Et j'ai écrit également des rapports, ce que nous appelons des rapports des situations. Et il y a aussi des rapports que je publie de manière mensuelle pour la directrice exécutive au niveau de Rome. Moi, j'aime beaucoup le sport, mais que je ne pratique plus malheureusement. Et j'aime bien regarder le sport. Et mon équipe favorite, c'est Barcelone. Le joueur que j'aime beaucoup, c'est Lionel Messi. J'aime bien la musique chrétienne, parce que moi-même, je suis chrétien. Donc, j'aime bien la musique chrétienne que j'aime bien. Bon, j'aime bien la musique chrétienne, une bonne musique. Donc, la musique en anglais, la musique chrétienne en anglais, évidemment. Ici chez nous, il y a le feu Alemoloto que j'aime beaucoup, la sœur Lormbongo que j'aime beaucoup, le frère Nzita que j'aime beaucoup, et des belles musiques chrétiennes, ça j'adore. Pour ce qui est de la bouffe, j'aime bien le foufou. Vous comprendrez que je suis de la province du Bandundu, j'aime bien la bouffe. Et donc, je ne peux pas me passer du foufou au quotidien. Et donc, je mange le foufou avec du pondou que j'aime bien. Et j'aime bien aussi les matembele. Donc, je peux pas. Donc, chaque jour, je prends les légumes. Même si je prends du poisson, je prends de la viande ou du poulet, mais je dois toujours faire accompagner cela de légumes. Donc j'aime bien les faux bois également et un peu de poisson salé. Les perspectives d'avenir, donc pour moi, je pense que les choses, Dieu voulant, j'aimerais continuer à œuvrer dans l'humanitaire qui a un domaine assez palpitant, assez important parce que c'est lié à la vie de l'homme. Donc je souhaiterais rester, continuer à travailler, n'est-ce pas, pour venir au secours des personnes vulnérables et les nécessiteux. Et je vous remercie.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Dans l'agenda de cette semaine, premier rendez-vous avec le PNUD qui lance deux rapports cette semaine à Kinshasa. Le mardi 18 novembre, le rapport sur les OMD et le 19 novembre, celui sur le NEPAD. Et puis, c'est quelques dates à retenir dans le calendrier des Nations Unies. 16 novembre, la journée mondiale de la tolérance. 19 novembre, la journée mondiale des toilettes. Et le 20 novembre, la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique et la journée mondiale de l'enfance. C'est fini pour ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Julien Nyamouni était à la supervision. Jean-Pierre Elali Coco à la coordination et Honoré Missenga Kalala au reportage. Lydie Bettina vous a présenté cette émission et Sylvain Matundou la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet www.radiookapi.net. Merci de votre fidélité et à la prochaine.